de vida. Une petite intervention pour lancer le débat. Je prends une petite remarque à la fin de votre exposé, puisque la fin nous intéresse particulièrement, entre autres autour de la question comment doit-on interpréter pour avoir une chance de modifier le rapport du sujet à la jouissance et à la parole. Vous ouvrez des pistes, mais c'est la conclusion pratiquement de votre exposé, donc il faudrait qu'une fois on reparle de façon très approfondie de ce qu'est la authentique chez Lacan, mais ce serait peut-être un débat un peu large ce soir. Il y a disons des nuances à prendre. Simplement, les remarques, il y a une série de thèses juste avant ça chez vous. Peut-être pourriez-vous éclairer un petit peu plus précisément ma lanterne, c'est un peu obscur de ma part. Vous dites que l'interprétation efficace fait intervenir la fonction prépositionnelle que vous cernez dans Philippe.
Mais à sa place.
Alors, à la place de quoi? Et vous dites que dans l'ordre logique, c'est de l'ordre du contingent. Effectivement, Lacan pose l'intervention du phallus comme contingent. Mais vous ajoutez, c'est ce contingent qui pourrait démontrer de façon indirecte l'impossible. C'est ça que j'aimerais que vous éclairiez, puisque, au fond, c'est ce que vous nous offrez comme une sorte d'ouverture de l'interprétation analytique. Est-ce que vous pourriez repréciser un petit peu ça, parce que j'ai eu du mal à suivre. Alors, est-ce que je pose des questions maintenant? Oui. Alors, évidemment, c'est toujours tout à fait stimulant et important de revenir sur toutes les questions de la jouissance féminine, de la féminité. Bon, mais évidemment, moi, je ne peux pas revenir sur l'ensemble de ces questions, mais j'ai vu beaucoup de frémissements dans la salle, donc je suis certain qu'il va y avoir
beaucoup de
Juste un petit point sur l'impudence du dire. L'impudence du dire est-il spécifiquement féminin? J'ai l'impression que l'impudence du dire, qui n'est pas le contraire de la pudeur, ce serait l'impudeur. Vous passez rapidement là-dessus. L'impudence du dire, il me semblait que ça désignait ce caractère du dire qui est au fond d'outrepasser l'impossible à dire. Il y est au fond dans tout dire quelque chose qui fracasse, ouvre, mord sur l'impossible à dire. Et que c'est ça l'impudence du dire. Alors, en quoi cela est-il spécifiquement féminin? Alors, vous avez donné beaucoup de pistes, vous pouvez peut-être nous en rappeler une ou deux principales. Je sais qu'il y a dans encore cette formule que vous n'avez pas citée, mais qui est diapason de ce que vous avez dit. La jouissance féminine nous montre le chemin de l'existence. Alors, est-ce que c'est de ce côté-là que vous avez voulu nous éclairer? Voilà ma seule question pour ce soir.
On y va.
Alors
je commence par la deuxième question, c'est-à-dire comment la contingence démontre indirectement l'impossible. La lecture que j'ai faite, c'est que suivant les indications de Lacan dans les outils que j'ai cités, c'est-à-dire on a le nécessaire, j'ai déjà parlé de ça ici. On a le nécessaire, c'est qu'il ne cesse pas de s'écrire, qui c'est le symptôme. D'accord ?
Elle change de crayon.
Oui, ça écrit très mal.
C'est qu'il ne cesse pas de s'écrire. Il dit, ça se lie à quoi ? Ça se lie au possible. Hein ? C'est qu'il cesse de s'écrire. Là, il met exactement l'impossible, si on met comme ça, l'impossible du non-rapport sexuel, c'est qu'il ne cesse pas de ne pas s'écrire, la contingence c'est là. C'est comme ça qu'il apparaît dans l'étourdi, en tout cas. Hein? Donc, La façon de... C'est ce qui cesse dans l'analyse, donc les possibles où on peut placer les effets thérapeutiques. Et la contingence, c'est qui cesse de ne pas s'écrire, ça veut dire que ça s'écrit avec oui, l'analyse. Ouais. Donc, ce qui cesse trouve ce qui ne cesse pas. Donc, par exemple, les effets thérapeutiques font cesser quelque chose et ça peut prouver qu'il y a des choses qui ne vont pas cesser. Ça pourrait, hein? Et donc, la contingence, ça écrit quelque chose qui ne s'écrivait pas, ça prouve ce qui ne va jamais s'écrire. C'est dans ce sens-là que ça fonctionnerait pour ça. Et c'était à partir de cette indication de l'étourdie que je comprenais la chose comme ça. Donc, maintenant, Lacan place donc la fonction phallique là, dans les contingents. Il y a plusieurs passages où il place la fonction phallique dans cette place, c'est-à-dire que l'analyse l'écrit, et ça l'écrit comment dans l'analyse, et c'est là ça passe, du 1, donc c'est-à-dire, et donc, comme j'entends, hein, en tout cas aujourd'hui, mettre ça à sa place, et ça veut dire que les sujets réalisent finalement que ça ne va jamais aboutir à autre chose, c'est-à-dire la castration, ça s'assume.
C'est pareil.
Je sais pas si je m'entends. Merci beaucoup.
Oui, d'abord, cette formule donc, de l'impudence du dire, Lacan la rapporte, la fonde, même à partir de la jouissance féminine. Hein, si on reprend la citation. Et notamment, enfin c'est ce qui va avec par rapport à la logique du batou. À la logique du batou. Et à partir de là, il me semble que, quand on se questionne en effet sur ce qu'est l'impudence, ça va avec un effet de vérité. Ça produit une vérité. C'est pour ça qu'il dit, c'est une autre formule là qu'il utilise dans un autre texte, mais le. Parlant voilà, d'impudence qui produit un effet de vérité. Alors, quelle vérité? Il me semble que elle est double. La première vérité, c'est l'inexistence de la femme. Et la seconde vérité, c'est ce qui en découle, c'est le non-rapport sexuel. C'est-à-dire comment la logique du patou... Il me semble que quand Lacan argumente le non-rapport sexuel, il me semble... Il le fait sur deux modes, qui s'articulent l'un et l'autre. Soit la castration, c'est une référence, vraiment une articule à la castration, et d'autres références où il articule vraiment au patou. Le patou venant comme ça objecter à ce que au tout homme réponde de toute femme, et où il y aurait à chacune son chacun sa chacune, et comme l'exemple des danses chinoises là, qui prend... Voilà, la part d'eux. Donc, il me semble que voilà, l'impudence du dire, c'est ce qui vient dire, produire cette vérité quand on a un rapport sexuel. Donc, ça va avec beaucoup d'autres formules, comme celle que je citais dans télévision, quand un homme se trompe et rencontre une femme, avec laquelle tout arrive. Donc, voilà, je crois que c'est la même idée. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Collectionner les citations, mais il y en a beaucoup d'autres où il rapproche toujours la vérité des femmes, enfin, il parle lui-même de son propre embarras, il a le même embarras par rapport aux femmes que par rapport à la vérité. Enfin, bon, il y a beaucoup comme ça.
Bonsoir.
David, connais-tu l'étymologie du mot impudence? C'est la question que je me pose.
Oui, oui. Non, j'avais cherché d'ailleurs, mais pas trouvé.
Ouais. C'est un terme que. C'est un terme, quand Lacan prend un terme, il lui donne comme ça une place prépondérante dans le moment de son discours. C'est qu'il a. Lacan a l'étymologie, c'était très important. Hein. Parce qu'il disait que s'il allait sur une île déserte, avec un seul livre, il emmènerait le dictionnaire de Bloch et Van Barbrugge. Donc je me demandais si tu avais une idée de l'étymologie de impudence.
Non, mais le seul point voilà, que j'ai trouvé, c'était pour aussi voir un peu le sens que lui y met, c'était cette autre phrase, la fructueuse impudence que de produire la vérité. Voilà. Plus le contexte là, de la citation dans laquelle il amène ça, voilà, qui me conduit à faire la lecture que j'en fais.
Je me demandais si dans l'impudence, il n'y a pas le mot dire. Pudere, qu'est-ce que ça veut dire en latin?
Je me souviens de ça. On peut regarder.
C'est un latiniste, pardon.
C'est le indicatif de pudeo, avoir honte. C'est l'absence de honte.
Et pudeur.
C'est la même racine.
Mais
la même racine.
La même
racine.
La même
racine. Sauf que l'impudence n'est pas
la même. Non, c'est pas pareil.
C'est pas pareil.
Merci pour vos deux exposés très riches. Une question, Elisabeth, une question à David. Une question de précision pour Elisabeth qui concerne le dire de l'analyse. Donc, tu nous as montré un compte qui existe trois dires dans l'analyse. Il y a le dire de la demande du côté de l'analysant, il y a le dire de l'analyste du côté interprétatif, et il y a le dire de l'analyse qui sont différents. Si,
c'est pas la question.
C'est la question. Donc, à un moment, il m'a semblé que tu ramenais ce dire de l'analyse du côté du dire de l'interprétation comme étant l'interprétation qui venait ramasser l'ensemble des interprétations. Moi, je me suis aussi demandé si en fait le dire de l'analyse n'était pas le dire ou attendre une fin d'une analyse suffisamment poussée, effectivement, qui est aussi l'intégrale de tous les dits de l'analysant, qui va au-delà du dire de la demande, mais qui aussi implique l'interprétation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver au dire de l'analyse sans, effectivement, l'action de l'analyste et de son interprétation. Mais ce n'est pas simplement réduit au l'interprétation de l'interprétation. Mmh.
Mmh. Tu as raison.
Comme des... C'est une précision sur ce point-là. Pour David, oui, moi, je me suis arrêté au formule de Lacan et je me suis questionné sur l'amour va sans dire pour du côté homme. Comment il faut l'entendre? Est-ce que c'est du côté sans dire, du côté du verbe, de dire les choses, ou du dire substantif? Ma première idée, c'était effectivement l'amour pour l'homme, c'est pas besoin de le dire. Et j'ai l'impression que c'est quand même très proche de la clinique, ça ramène au rapport homme-femme, mais c'est ce que une femme reproche à l'homme. Il ne lui parle pas suffisamment de l'amour, de ce qu'elle attend qu'il lui dise.
L'exhaustion.
Alors, bon, ça c'est une question. En revanche, pour la femme, il faut le dire de la vérité. Donc toi, tu as situé le dire de la vérité du côté de la vérité du non-rapport.
Absolument.
Simplement, je me suis interrogé par rapport à ce qu'elle t'a dit à la fin. Parce que ça a fait un peu continuer à me faire germer ma petite idée de départ. Et je me suis demandé si le dire en question n'était pas le dire du partenaire. Qu'ils lui disent ce que tu as dit, les conditions de l'amour, qu'ils lui disent comme c'était bien dit, voilà, qui lui parle selon la vérité de son fantasme fondamental à elle. Donc là, d'un côté, l'homme, dans l'amour, pas besoin qu'il lui dise, et parce que, comme tu dis, la jouissance phallique, recouvre le trou, le manque du bon rapport. En revanche, pour du côté femme, pour que l'amour fonctionne, qui amour bien entre les deux, elle attend de le dire du partenaire. Et spécifique, qui est fait comme tel que tu veux définir à la fin. Donc il y a une sorte de bouclage en train d'exploser, je trouvais intéressant.
Sur chaque exposé, bien sûr, qui est passionnant. J'embraye sur la question que Elisabeth s'est posée, comment le dire de l'analyse, qui pour moi est en effet la résultante des deux autres, comment elle arrive à toucher quelque chose à la jouissance liée à la parole. Et au fond, moi je me disais, quand même, il y a d'autres choses qui arrêtent la parole. Il n'y a pas que le dire de l'analyse. Les effets thérapeutiques, justement, dont Lacan dit que ce sont des conséquences de dire, et que ça fait que parfois l'analyse ne va pas jusqu'à faire exister un dire. Et donc, il y a bien un arrêt de la jouissance de la parole dans ce cas-là. Je me demandais donc comment est-ce donc possible, si on suit la thèse. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que la jouissance de la parole ? On a fait l'expression, mais qu'est-ce que c'est que la jouissance de la parole ? Bon, c'est la jouissance. Ça a deux occurrences, cette jouissance. C'est la jouissance pulsionnelle, métonymique. La métonymie de la pulsion, qui alimente toute la langue avec le vocabulaire oral, anal, scopique, etc. Et donc, métonymie des pulsions dans la parole, et étant donné qu'il y a le vocabulaire des pulsions, ce vocabulaire des pulsions, ce sont des uns signifiants, c'est aussi la jouissance phallique. Donc la jouissance de la parole, c'est un mixte de jouissance pulsionnelle et de jouissance phallique. Si la jouissance phallique se définit toujours comme la jouissance d'un élément terre. Ça s'arrête. Je me disais, il faudrait chercher les conjonctures dans des cas précis d'arrêt de ça. Ça s'arrête parce que cette jouissance-là peut se trouver autrement. Ailleurs, la jouissance de la parole n'est pas une jouissance nouvelle qu'on ne connaît pas hors parole. C'est Freud qui a découvert ces deux endurances, les pulsions partielles et la jouissance phallique. Et donc, la jouissance de la parole peut s'arrêter chaque fois, je me demande si c'est comme ça, chaque fois que le sujet trouve à satisfaire son aspiration pulsionnelle et phallique autrement que par le blabla. Parce qu'il n'y a pas que le blabla. Hein. Toutes les activités de la vie sont sous-tendues par et les jouissances pulsionnelles et la jouissance phallique. Puisqu'au fond, moi je suis assez. Ça m'éclaire assez de me rappeler que Lacan dit la jouissance phallique, c'est la jouissance du pouvoir. Sous toutes ses formes et où que ce soit. Donc ça peut se véhiculer dans la parole, mais ça se véhicule partout dans ma vie. Donc c'est comme ça que je m'explique qu'au fond, je ne suis pas si sûre que ce soit un gros obstacle qu'il y ait une jouissance de la parole dans ma vie. Bien sûr, ça, on est en train de penser que ça entretient. Entretient le blabla.
Oui,
ça entretient le blabla. Mais comme le blabla fatigue aussi, hein, fatigue, donne le sentiment d'impuissance, il y a aussi dans l'analyse quelque chose qui pousse l'impuissance, pousse contre la jouissance du blabla, me semble-t-il. Enfin voilà, c'est quelques remarques qui me venaient à propos de la problématique que vous aviez construite. Alors, David Bernard, j'ai deux petits points que j'ai trouvé amusant dans votre exposé. Je vous disais, mais quel tableau de l'homme ressort de cet exposé? C'est terrible, le pauvre! Qu'est-ce que vous avez? Mais c'est pas très petit, écoutez, vous avez. Il n'a pas d'accès à la vérité, sa jouissance est telle. Qu'il ne sait même pas qu'elle est. Il n'a aucune idée de son fantasme. C'est quand même chez lui qu'on a découvert le fantasme, quand même. N'oublions pas dans la psychanalyse. Le fantasme a été découvert chez l'homme. Donc, vous lui avez barré tous les accès. Ils vont les mettre du côté d'une femme. Bon, ça, c'est pour dire. Ça m'a frappé quand même. Bon. Alors, ça recoupe un peu la question que posait d'ailleurs Patrick. Quand Lacan dit le dire de la vérité, il ne dit pas qui l'a dit la vérité. Il y a beaucoup de textes où il parle du rapport d'une femme à la vérité, mais quand, à l'inverse, quand il dit un homme qui lui parle selon sa vérité à elle, c'est lui qui l'a dit la vérité à elle. La vérité à
selon
la
son fantasme.
Hein? Selon son fantasme. Le fantasme, c'est la vérité d'une femme.
Le fantasme de la femme.
Oui, mais c'est pas
une femme.
Allez-y.
Oui, non, mais quand il dit qu'il faut qu'elle en trouve un qui lui parle selon son fantasme.
Oui.
C'est sa vérité à elle, son fantasme.
Oui, mais ce n'est pas la même chose que l'autre citation quand il dit la jouissance.
Oui,
de...
mais moi je m'occupe pas des citations.
Parce que vous rassemblez les deux.
Oui, quand même, il y a une question là. Alors, par ailleurs, donc, j'avais bien développé l'idée qu'au fond, une femme patoute ferait apparaître le mensonge du côté de l'homme, ou son rapport fermé à la vérité, à lui, au départ de l'exposé. Mais quand même, le non-rapport sexuel, Lacan ne l'a pas établi à partir des femmes. Le non-rapport sexuel, il est établi, il est nommé dans Radiophonie, et pas à partir de la considération des deux côtés de la sexuation, c'est avant. Et c'est établi précisément à partir de la fonction phallique, déjà là, bien sûr. Donc, il suffit de la fonction phallique pour qu'on pose le non-rapport sexuel. Et donc, dans un second temps, vous avez raison, c'est une deuxième interrogation, il en vient à réexaminer le non-rapport sexuel qui n'est pas posé grâce aux femmes, qui est posé grâce à la fonction phallique. Il vient la réexaminer à la lumière, en quelque sorte, du problème que lui crée la femme. Alors, je fais remarquer, chaque fois qu'on parle... C'est vraiment la même impression, c'est impossible d'en parler sans se contredire. Parce que d'une part, il nous dit, c'est lui qui se contredit, c'est pas nous. D'une part, il nous dit la femme n'existe pas. On ne peut pas parler de toutes les femmes. Très bien. On ne peut parler que d'une. Très bien, tout va bien. Et après, il nous dit les femmes, celles du MLF, celles de ceci, celles de cela. Et on ne peut pas, à un moment, ne pas venir à parler des femmes. Des femmes. Comme si les femmes étaient, alors on ne va pas dire une essence, on ne va pas dire une catégorie, qu'est-ce que c'est? Mais c'est les femmes. Alors les femmes, quand même, elles se définissent par des civils. Elles se définissent par ce qu'on a dit au départ, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est une fille, c'est un garçon. Et donc il y a cette contradiction-là qui tourne dans tous les textes de Lacan sur cette question de la patoute qui n'est pas patoute, qui n'est pas toute patoute, si je puis dire, qui est en partie faillie. Tous ces développements, c'est impeccable, mais comme en même temps il nous dit qu'il y en a des femmes qui sont toutes dans la fonction phallique. Toutes dans la fonction phallique, hein. On retourne sur la question quand même des femmes. On ne peut pas court-circuiter la question des femmes et se contenter de dire la femme n'existe pas, une femme. C'est, il y a une contradiction là que je trouve assez terrible. Non, j'ai quelquefois essayé de voir comment on pouvait sortir, mais je n'ai pas trouvé encore. Un dernier mot, si vous permettez, sur l'impudence. Moi, je crois que Bernard l'a dit, le dire en lui-même est impudent. Tout dire est impudent. Pourquoi ? Parce qu'il est existentiel. C'est-à-dire qu'il n'est pas déterminé. Donc c'est une impudence essentielle de dire. Alors, Lacan a l'idée que les femmes, une fois de plus, hein, les femmes, alors on ne sait pas si c'est une ou si c'est l'un, les femmes une, on peut supposer, les une femme, il faudrait les appeler comme ça, les patoutes, les une femme, leur dire serait plus impudent. Moi je comprends ça en me disant que oui, parce que le dire de Courtoutix, il est appuyé sur le signifiant phallique. Tandis que le dire de la patoute, il n'est appuyé sur aucun signifiant. Donc c'est plus impudent.
Ben,
c'est comme ça.
Ah, oui.
Est-ce que vous voulez répondre ou je vais...
Oui.
D'autres questions?
Merci Patrick, je pense que tu as bien saisi ce que je voulais dire. Je n'ai peut-être pas bien appuyé, mais l'idée est celle-là, d'en dire résultant de l'analyse, qui n'est pas synonyme de l'interprétation. Quand je parle de jouissance via la parole, il faudrait peut-être circonscrire davantage ce que je voulais dire. C'est-à-dire, je pensais vraiment à la jouissance liée au sens et au déchiffrage dans l'analyse. C'était de ça que je voulais, il fallait peut-être circonscrire.
Oui, c'est
pas
général.
Oui, c'est juste.
Oui, alors, par rapport à la question de Patrick, c'est vrai, bien sûr qu'on peut l'entendre de plusieurs façons différentes et qu'il y a tout de suite une dimension comme ça très clinique. Néanmoins, si on voit le contexte précis dans lequel il amène ces deux propositions, il les amène, voilà, juste après son commentaire sur Aristote, vraiment comme deux propositions logiques, et la façon dont il reprend ça après dans les séances suivantes, en tout cas, c'est comme ça que moi je me lis, ça me paraît évident que ce qu'il vise là à partir du dire, il s'agit du dire de vérité, dire de vérité, ça va du dire du non-rapport sexuel. Très clairement ça qu'il vise, ça vient juste après ce qu'il vient de dire chez Aristote, donc qu'il y manque le dire vrai, sauf à un moment où Aristote prend un exemple justement sur les rapports entre deux couples, le lien partenaire, et là il dit, ah ben, vu qu'il est tracassé par ça, comme tout le monde, là, il y a une vérité qui advient, et là, il y a quelque chose du dire vrai qui advient. Et c'est juste après ça, voilà, qu'il embraye là-dessus. Donc, il me semble que le dire de vérité, là, concernant les femmes, une femme, voilà, parlons comme on peut, c'est d'abord, ce qu'il dit, c'est pas au niveau du dit, hein, c'est quelque chose de, d'un point de vue logique, référé, articulé au batou, hein, tel qu'il l'amène, même si après, en effet, on peut se questionner, et c'est sans doute pas hasard aussi s'il le formule comme ça, hein, et que l'amour va sans dire, ou que d'un côté, ou que de l'autre, on puisse lire ça comme une attente par rapport au dit du partenaire. Bien sûr qu'on peut le dire comme ça, mais je ne crois pas du tout que ce soit ça qu'il vise quand il amène ces deux propositions. Même s'il laisse la porte ouverte pour que ça puisse résonner comme c'est son style. Ça, alors, oui, par rapport à la remarque de Paulette Soler concernant les hommes, ça ne paraît pas du tout, en tous les cas, si on regarde comment Lacan, les différentes thèses que Lacan amène sur la question des hommes, cette dimension de la tromperie revient sans cesse. On en a par exemple, il fait tout un développement là-dessus dans Télévision, mais il en fait bien d'autres ailleurs.
Il se trompe, au sens de se tromper.
Se tromper. Voilà, bien sûr, avec
Se trompe, oui, d'accord. Non, j'ai cru que vous vouliez dire tromperie, c'est équivoque.
Mais de toute façon, ça n'arrête pas. Le fameux « à se tromper », quant à un homme « à se tromper », ce « à se tromper », c'est pas du tout une immense chose de bonheur. C'est extrêmement précis chez Lacan. Alors évidemment, avec son style, il va nous dire que Adam est le connard des connards. Mais c'est la même idée. Derrière, c'est le connard des connards. Pourquoi ? Ben parce qu'il se laisse attraper par « il y croit à la bonne », en fait. Voilà, on pourrait développer ça, mais je crois pas du tout que ce soit... histoire de portrait plus ou moins obscur, c'est référé chez Lacan dans ce qu'il amène là sur l'homme vraiment à des, en effet à des questions, à des arguments logiques, et là comme il le dit aussi sur l'amour va sans dire, au poids de recouvrement de la jouissance phallique, recouvrement que dans un coin disons à quoi objecte pour une part le patou, alors après qu'on le trouve chez des femmes ou chez des hommes, voilà, même s'il n'y a pas... Les exemples ne sont pas si nombreux, il le dit en même temps explicitement, là encore, que un homme peut se situer du côté patou, malgré l'embarras, quand même, malgré l'embarras, on trouve l'embarras, qu'il a, alors, de son organe, le dit phallus. Enfin, il ramène quand même ça aussi, donc c'est très... c'est très précis et intéressant en même temps, je trouve ce qu'il amène là-dessus. Alors attendez, je ne vais pas m'en venir. Ouais, non, c'est un peu. Oui, voilà pourquoi trop vite.
Est-ce que vous voulez venir ici parce qu'on n'a pas de micro-baladeur? Non, vous parlez comme ça, allez-y.
Moi, j'ai
si on ouvre la porte du petit meuble, ça va être mieux.
Ah, oui.
Peut-être.
J'ai une question pour Elisabeth. Je voudrais reprendre ton affirmation très simple. C'est l'efficacité d'une analyse, c'est de mettre à sa place la fonction phallique. Et mettre cette formule très efficace, finalement, en lien avec ta fin, le dire final de l'analyse, que tu dis moins demandant. Et donc, Bernard Tobol te demande à quelle place mettre l'efficacité d'une analyse, c'est de mettre à sa place la fonction phallique. À quelle place tu réponds la contingence, c'est-à-dire ce que l'analyse peut produire. C'est-à-dire les 1 de la jouissance que le sujet doit reconnaître et assumer, mais qui ne peut pas les additionner, ne peut pas passer au 2. Et
je te propose qu'on peut entendre aussi dans le mettre à sa place comme remettre à sa place la jouissance phallique, c'est-à-dire la limiter à ce qu'elle peut offrir, des un de jouissance, et pas en attendre plus, ne pas lui en demander plus. Qu'est-ce que ça te fait?
Ça me parle.
Oui, non, c'était à propos du le et une femme. Moi, je
un peu plus fort.
Voilà, ça va. Bon, non, ce que je voulais dire, c'est que il me semblait qu'entre chaque fois qu'il utilise les femmes, très clairement, il ne s'agit pas de là. C'est pas là. C'est une, c'est en quelque sorte une par une, et que, je veux dire, la distinction de. Quand il parle de la femme, en quelque sorte, elle est chaque fois spécifiée comme la femme. Donc je trouve qu'il n'y a pas tellement d'ambiguïté sur cette distinction.
C'est parce qu'il n'y a pas de toutes les femmes. Marc.
Oui. Oui.
Le micro.
Pour faire du bruit, c'est cet angle de micro aussi.
Oui. Bah, ici, ça va.
Franchement,
celui-là.
Bon, merci pour les exposés. Beaucoup de questions, évidemment, sur les développements, mais je m'adresse à Elisabeth juste sur un point, qui est le tout début, la toute fin de ton exposé, qui est sur un point, disons, de clinique, entre guillemets, puisque tu as dit, je te cite, dans une analyse, tout change radicalement pour un sujet, et tu as conclu, tout d'un coup, tout a changé. Il y a un usage du tout, là, passif. Alors évidemment, est-ce que c'est une affaire de tout et pas tout? Est-ce que c'est la parole d'une fille qui a vu et qui a jugé avec sa radicalité? Mais devant ce tout, j'aurais tendance à te demander si ça doit toujours être comme ça. Et c'est pourquoi, justement, dans ces changements radicaux, on peut s'apercevoir après coup un certain nombre de choses ont également changé, mais que ça peut se faire effectivement progressivement, voire à l'insu du sujet.
Ça, c'est chouette.
Tu l'as dit comme ça, parce que effectivement, quand tu dis tout d'un coup, tout a changé, il y a un côté.
Mais longtemps, comme si j'ai une
excuse-moi, dans ce cas-là, j'ai
un. Non, mais c'est.
C'est pas un instant que le ciel se déchire.
L'exigence
féminine, c'est pas seulement le famille, c'est peut-être aussi le tout.
Alors,
à la décharge d'Adam.
Ils auront tout vu, pas trop.
Il était peut-être le seul à avoir quelques raisons de penser qu'une femme, c'est la femme, puisqu'il n'y en avait pas d'autre.
Il y a le formidable journal de Mark Twain qui est. Sur, voilà, le. Oui, le non-rapport.
Je sais que Freud disait que Mark Twain était un type assez réservé sur la sexualité. Il se moquait beaucoup de lui à cause de ça.
Au moins, on sait que Lacan, il avait l'idée, ça ne prouve pas qu'on est à la partager, mais il avait l'idée qu'une analyse pouvait changer l'amour.
Oui, l'amour que tu dis.
Est-ce que c'est un amour entre un homme et une femme
Ça, c'est pas le problème. Non.
Juste un mot sur l'observation, parce que c'est tout, bien sûr, c'est pas le tout, la vie change radicalement, mais ce qui change, c'est qu'on vit les mêmes choses, parfois complètement différemment. Et dans ce sens, c'est tout.
Et on sait les mêmes choses.
Les mêmes et d'autres.
Oui, moi je trouve que tu as bien démontré dans le fond que partout change.
Tout ça.
Avec ton explication, donc c'est moi je dirais plutôt ça, mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et sinon, petit détail, je vous rappelle que Ève n'est pas la première femme, c'est la deuxième.
Lilith,
la première, était très méchante, elle était très féministe.
Ça, c'est là.
Elle était envoyée au fond des océans pour attaquer les petits-enfants.
Par rapport à la question de Marc, pour le moment, quand Lacan parle d'un amour plus digne, j'entends deux façons différentes, même si ce n'est pas sans lien, mais d'une part, ça rejoint à ce que tu as dit peut-être à un moment donné aussi, Elisabeth, l'amour en tant que peut-être un peu moins demandeur,
c'est ça, dans toute la logique du fantasme.
Et ce qui va avec ça, un amour peut-être. Alors, mais c'est compliqué, hein, ces questions-là, parce que dès qu'on arrive à des espèces de propositions qui seraient valoir, tout de suite la cata, mais entre la logique. Quand même, ce sur quoi Lacan insistait, la logique homosexuelle, de l'amour et la question de l'hétéro, ce qu'il pose là dans l'étourdi, il parle quand même, il pose en tous les cas la question d'un amour autre possible, ou pas, mais il pose la question. L'hétéro, là aussi, faisant place, il faut le dire comme ça, au batou, là où l'amour homosexuel voilà, maintiendrait uniquement cette logique du tout phallique, avec cela, avec, voilà, comme conséquence. Bon, voilà un peu.
Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais dans l'hétéro, l'amour italien, il parle de l'amour plus digne, il est très clair qu'il le réfère au rapport sexuel. Hein. Donc il s'agit du problème de l'œuf phallique et de l'hétéros. Puisque, bon, il y a toute une série de propositions qui s'enchaînent, et il explique, il avait même cette phrase que la vérité n'est que boîte d'allumage.
Oui.
Hein, donc, la vérité, entendons la vérité du fantasme, hein, et que bois d'allumage, bois de chauffage, je ne sais pas. Donc, c'est vraiment, on est sur le thème du non-rapport. Donc, quand il amène un amour plus digne, évidemment, il est sur la question de homme-femme. Il n'est pas sur la question simplement de l'amour homosexuel avec deux M. Il est avec la présence de l'hétéros. Donc,
c'est pour ça que
je
dis. Mais l'hétéros, quel que soit le sexe. Il le précise d'ailleurs dans les deux.
On retombe sur la contradiction dont je parlais.
L'autre remarque. Je voulais faire. Bien sûr, dans un premier temps, le non-rapport sexuel, c'est clairement articulé, argumenté par rapport à la castration. Mais il me semble que quand il y revient avec la question du patou, c'est plus qu'à la lumière du patou. Il me semble que vraiment, il fait du patou aussi, sans rejeter la thèse première de la castration, mais il ajoute aussi quelque chose là qui vient objecter au rapport sexuel, qui vient causer le non-rapport sexuel, me semble-t-il.
Je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, pour qu'on dise qu'il n'y a pas de rapport sexuel, il faut qu'il y ait du deux. Et du deux qui n'entre pas en rapport. Donc, parce que la castration, elle est dans le couple homosexuel masculin. Pas besoin d'être avec une femme pour rencontrer la castration. Mais... qu'est-ce qu'il y a encore
ça dépend.
Très sérieux. Contraire.
Effectivement, je suis d'accord avec ça. C'est parce qu'il donne consistance au partenaire autre, d'une certaine façon, qu'il étaye la thèse du non-rapport. Qui a d'abord été introduite à partir de la castration phallique.
Bien, il nous reste à remercier nos intervenants.